coach durant cette année scolaire l'Église dans la réécriture de la vision. Et après une série sur qui est Christ, on l'a vu cet été, c'est une série sur l'Église. Alors je vais lire avec vous un passage de l'Évangile de Jean qui, pour moi, a toujours été intriguant. Je ne sais pas si c'est pour vous, ce passage est intriguant dans le sens où il n'est pas évident, mais qui en fait s'est beaucoup éclairé pendant ce temps de repos. J'ai pu méditer sur ce que je vais écrire concernant la vision, et en particulier ce passage m'a interpellé. Donc on va lire tout le contexte du verset 8, c'est dans l'évangile de Jean, l'épître de Jean. Il y a trois épîtres qui sont très courtes, mais la première épître est un peu plus longue que les deux autres, c'est chapitre 5, et on lira à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang et l'Esprit, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit, l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu. C'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Car je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On arrêtera là la lecture. C'est un passage très dense, très profond, comme Jean peut le faire. Hein. L'évangile de Jean aussi est particulier par rapport aux autres évangiles. Et là, il nous donne un peu le modèle qu'on va suivre pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église. Juste avant d'aborder ce sujet, on voit que dans cet épître, dans ce passage qu'on a lu, il nous est dit que nous triomphons du monde. Donc ça veut dire que le monde a une influence sur nous, et il faut triompher. Et nous triomphons par la foi. Voyez-vous, la foi qui repose sur les Écritures nous donne de pouvoir triompher de ce monde. Donc nos pensées naturelles et tout ça doivent être soumises à la foi. C'est juste pour le rappeler, c'est une foi qui est unique, hein, qui est celle qui se confie en Jésus, qui est fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Jésus lui-même se définit comme étant le fils de l'homme quand il est sur la terre, et Dieu lui le déclare fils de Dieu. Donc il a les deux position, fils de Dieu, fils de l'homme en tant que celui qui rachète l'humanité de la chute du premier Adam. Nous verrons un petit peu plus, c'est un peu là-dessus que nous allons axer notre compréhension de l'Église, quand il est dit qu'il y a trois, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et trois qui rendent témoignage sur la terre, c'est l'Esprit, l'eau et le sang. Et ça, ça m'a toujours intrigué, et maintenant ça commence à prendre forme, et c'est ce que je vais vous apprendre durant ces enseignements. En finale, il termine par la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle aussi, c'est une question de foi. Est-ce que nous croyons que nous avons la vie éternelle? Nous l'avons non pas parce que nous le sentons, bien qu'on puisse ressentir la présence de Dieu, mais la vie éternelle, c'est une vie qui va au-delà de la mort, qui est une vie qui ne s'arrête jamais. Et là, nous l'avons par la foi. Nous l'avons par la foi parce que nous nous identifions à Christ, qui lui est la vie éternelle, et qui a donné sa vie par son sang à la croix pour que nous ayons la vie. C'est une sorte de substitution par la foi que nous avons parce que lui est ressuscité d'entre les morts. Bien sûr, la foi repose sur la résurrection. Si nous enlevons la résurrection de Jésus comme fils de l'homme, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, eh bien, toute notre foi est vaine, comme le dira l'apôtre Paul. Donc, la foi repose sur le centre de la vie et de l'œuvre de Christ, qui a été de venir en tant qu'homme pour porter notre péché, alors que lui n'a jamais péché. Et au travers de la mort, de la résurrection, eh bien aujourd'hui, nous avons la vie éternelle par la foi. Amen. Alors concernant l'Église, c'est quoi l'Église? Je pense que tout le monde sait que c'est un rassemblement. D'abord, c'est pas un bâtiment, l'Église. C'est un rassemblement. Le mot « ecclésia » renvoie à la notion d'assemblée, rassembler, rassemblement. C'est une assemblée. Le mot « ecclésia », c'est « assemblée ». C'est une mise en commun, donc une communauté, quelque chose qui est mis en commun. C'est pour ça que quand David nous a dit de mettre en commun, c'est tout simplement le fait d'être une communauté. Donc une communauté d'individus unis par des valeurs, les valeurs du royaume, et leur conviction pour demeurer unis. C'est-à-dire la volonté, c'est d'être... Disons, la conviction, c'est qu'on est unis en Christ, mais la volonté, c'est de demeurer unis. Donc, il y a cet aspect de désirer être unis. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est par les liens de la paix, etc. C'est un travail que nous devons faire pour rester unis, en marchant ensemble. Donc, demeurer unis en marchant ensemble à l'exemple de Christ et de son enseignement pour glorifier Dieu. Alors, à l'exemple de Christ, essentiellement, Christ a été serviteur. Nous avons vu dans les messages précédents que le Messie, annoncé par les prophètes, a deux accomplissements, un Messie souffrant et un Messie glorieux. Et là, on est dans un dualisme qu'on appelle eschatologique parce que c'est les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, depuis 2000 ans nous sommes dans les temps de la fin et nous attendons l'accomplissement de la fin. Donc cette durée, eh bien, dans cette durée il y a deux âges, il y a un âge présent dans lequel tous les hommes sont inscrits, c'est l'âge dans lequel nous sommes encore pécheurs, tout en étant pécheurs, nous sommes aussi saints. Dans l'âge à venir, dans lequel nous sommes transportés, parce que nous vivons avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous avons deux positions, une position terrestre et une position céleste. Et c'est l'ensemble de ces compréhensions qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'est l'Église. Alors, en revenant au rassemblement, vous savez qu'il y a différents types de rassemblements. Il y a le culte dans lequel nous sommes en ce moment. Ce culte nous rassemble autour du Seigneur, autour de la table. C'est pour ça que j'aime bien que la table du Seigneur, on puisse la partager, si possible, c'est pas une loi, tous les dimanches. Bien sûr, il y a le risque que ça devienne un rite, ce qui fait que certains le font tous les mois. Et je crois l'Armée du Salut le fait une fois par an. Et, bon, bien sûr, on a toujours tendance à lutter contre les excès, donc du coup, voilà, on cherche des moyens. Mais bon, je pense que on peut très bien ne pas tomber dans le rite, même si on le fait tous les dimanches, si on est conscient de ce qu'on fait et si on ne tombe pas dans un ritualisme qui, de toute façon, nous attend tous. Mais c'est à nous de pouvoir nous convaincre que nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Donc le culte est un rassemblement autour du Seigneur, de sa table, jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, ça aussi j'aime bien dans ce symbole, le symbolisme de la table du Seigneur, c'est que Jésus l'a institué en disant « faites-le jusqu'à ce qu'il revienne ». Donc il y a une espérance. Donc l'espérance, nous entretenons l'espérance du retour du Seigneur. On adore Dieu et on écoute sa parole. C'est essentiellement les deux choses dans le culte. Il y a les réunions, les assemblées de prière. Hein, là aussi, avec Michel, on tient à ce qu'on les maintienne chaque semaine. Parce qu'on intercède les uns pour les autres. On les intercède les uns pour les autres. On a tous besoin de prière. Un moment ou un autre. Hein, j'ai beaucoup apprécié vos prières quand j'étais malade. Et on se sent porté par la prière des saints quand on est dans ces situations-là. Alors, on est en train de préparer la maison de prière, mais je ne pousse pas trop à la vitesse. Elle sera inaugurée en son temps. C'est un autre type de prière qu'on aura. C'est une prière pour toutes les nations. Et là, on prie pour que nous soyons prêts pour ce genre, avec d'autres chrétiens de la région, et même plus loin au niveau de la France. Ensuite et après, il y a les assemblées politiques, c'est-à-dire où on parle de décisions pour conduire l'Église. Donc ce sont les assemblées générales, on en aura une prochainement, Laurence va la rappeler, où on décide l'utilisation des ressources, hein, que ce soit financières ou des charges confiées aux uns et aux autres dans le Conseil. Il y a des assemblées générales extraordinaire, donc l'ordinaire c'est une fois par an, l'extraordinaire c'est en fonction des questions de fonctionnement de l'Église. Pendant plus d'une quinzaine d'années, j'avais fait des assemblées générales extraordinaires pour décider du plan d'action annuel. On avait des plans d'action où l'Église se construisait sur un plan d'action stratégique d'une année sur l'autre. Là, on retrouve une sorte de plan stratégique avec la réécriture de la vision. Voilà. Donc là, ce sont des assemblées générales extraordinaires. Ensuite, il y a les conseils de fonctionnement qui sont destinés à partager les problèmes de chaque ministère dans l'Église et l'adoption de lois de fonctionnement. Les comités de direction, donc plus restreints, qui sont aussi des assemblées pour décider des grandes orientations de l'Église et des décisions à prendre. Et ensuite, on a d'autres types de rassemblements qui sont les discussions. Discussions qui ne touchent pas aux doctrines, mais qui touchent à des questions d'éthique, comme on a fait un forum cet été, pour discuter ensemble et partager nos opinions. Et ensuite, après, il y a les groupes de maison, hein, des groupes de partage, etc. Et je passe d'autres assemblées, c'est pour montrer qu'il y a différentes assemblées, hein, différentes formes de rassemblement. Tout ça, c'est l'Église. Il y a un problème, un souci, c'est que la plupart des pasteurs et des enseignants dans les Églises réduisent la compréhension de l'Église à l'étymologie du mot. Alors l'étymologie, c'est que ecclésia vient de ek, kénéo, je crois en grec, ek, kénéo. Ek, ça veut dire en dehors, hors d'eux. Donc tout le monde, moi, je regarde un peu internet, c'est les enseignements sur l'Église, tout le monde part de ça pour expliquer ce que veut dire l'Église. L'Église est hors d'eux. Hein. Alors c'est vrai que l'ecclésia, dont parle Jésus, puisque Jésus institue son Église, disons, dans Matthieu 16, il crée cette institution qui est l'Église, en parlant de l'Ecclésia. Et l'Ecclésia, c'est un modèle politique, de gouvernement d'une cité, cité gréco-romaine. Jésus aurait très bien pu, et Jésus ne parle pas pour ne rien dire, il prend les termes précis, il aurait pu parler de synagogue. La synagogue de Jésus-Christ. Il aurait pu parler d'autres modèles. Pourquoi prendre l'ecclésia ? Alors c'est vrai que l'ecclésia, sans parler de l'étymologie d'origine, c'était une assemblée en dehors de la cité, qui se faisait en dehors de la cité. Je ne vous ai pas présenté l'image habituelle de l'Ecclésia. Elle se passe en dehors, par exemple, d'Athènes, en dehors de toutes les cités athéniennes. Elle est effectivement en dehors de la ville. Mais elle l'est simplement parce qu'il y a plus de place, il y a un endroit précis, etc., pour rassembler l'ensemble des citoyens de cette ville. Et c'est une assemblée de décision pour établir la souveraineté de cette cité, parce que les cités athéniennes, enfin les cités helléniques, avaient une autonomie, bien que reliée à une... C'était une sorte de fédéralisme, si vous voulez, une organisation fédéraliste. Un peu comme aux États-Unis, vous avez des États qui sont reliés à un État fédéral. Et donc, c'est davantage cette compréhension qu'il faut prendre plutôt que l'étymologie du mot. Parce que Jésus ne fait pas de la linguistique. Il explique des choses pour que ce soit clair et facile à appliquer. Et ce mot d'ecclésia est celui que Jésus a pris pour parler de son ecclésia. Et cette ecclésia marche sous forme de démocratie. Or, très souvent, les pasteurs fustigent que l'Église soit une démocratie. Je suis désolé, en fait, l'Église est une démocratie, mais pas que ça. C'est aussi une théocratie et aussi une doulocratie, on le verra. Et c'est là qu'on rejoint le mode de raisonnement. Tout à l'heure, Michel a parlé raisonnement chinois, raisonnement oriental, raisonnement hébreu, si vous voulez, qui n'est pas un raisonnement grec. C'est pas la logique grecque. C'est une logique en cercle. C'est-à-dire qu'on comprend la vérité en tournant autour. Voilà, parce que, voilà, pour comprendre, et d'ailleurs, vous le savez, depuis que vous êtes né de nouveau, je pense que la parole de Dieu, petit à petit, il y a des choses qui s'éclairent qu'on n'avait pas compris avant. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et donc, on voit bien que petit à petit, en fonction de notre relation avec le Seigneur, des expériences qu'on fait spirituelles, etc., on comprend plus de choses. Et je vous rassure, on ne comprendra jamais complètement qui est Dieu. Même dans l'éternité, on découvrira les merveilles de Dieu. Donc, c'est normal que ce soit plus un raisonnement circulaire que nous devons adopter plutôt qu'un raisonnement logique. Comme si d'un seul coup, paf, on fait un raisonnement linéaire, on a trouvé la vérité, terminé, c'est fini. Et c'est le danger. Et c'est dans ce danger que tous les pasteurs que je vois autour de moi, enfin la plupart, tombent. Parce qu'ils n'ont pas vraiment la compréhension de l'Église comme on va le voir ensemble. Et donc il faut aussi s'accrocher au fait que l'Église est aussi une démocratie. Démocratie, une hiérocratie, c'est-à-dire sacrée, et aussi un rassemblement de serviteurs. Cette démocratie, à l'époque donc de l'Ecclésia, était parlementaire, dans le sens où l'Ecclésia, quand elle se réunit, elle prend des décisions majeures, en particulier de désigner des magistrats. Les magistrats qui, tout au long de l'année, vont prendre des décisions à leur place. Donc vous voyez, on est déjà dans un régime de démocratie parlementaire. Et c'est ce qu'on va trouver aussi dans l'Église, qui sont dans une compréhension de l'État cité, du bien commun, au service du bien commun. Donc on verra par la suite que l'Église, en fait, elle a trois pôles, comme d'ailleurs on voit le témoignage du ciel et le témoignage de la terre, il y a à chaque fois les trois pôles qui sont présents. Ce qui fait problème, et on a vu pas longtemps une famille très très chère qu'on connaît très bien, qui au niveau engagement dans notre église étaient absolument des gens super, remplis du Saint-Esprit et tout, qui aujourd'hui n'ont plus d'église. Ils ont fait plusieurs églises, ils ont été déçus de ces églises, et leurs 5 enfants sont dans la nature aujourd'hui, et eux-mêmes aussi. Tout ça parce que l'église, les églises dans lesquelles ils étaient, ils n'étaient pas basés sur cette compréhension qu'est-ce que c'est l'église au niveau théologique, au niveau biblique. Et c'est ça que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que l'église repose sur ces 3 pôles. Quand on ne repose pas sur ces 3 pôles, tout naturellement, on repose sur 2 pôles. C'est-à-dire ce pôle-là, ce pôle qui est là, il va rejoindre celui-là et on sera dualiste. Et à chaque fois quand on est dualiste, on est dans un paradigme de puissance, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, hein, quand on est dualiste. Et forcément, on va dire celui qui est bon, c'est le spirituel, et celui qui est mauvais, c'est le charnel. Okay, c'est la partie humaine. Or, nous avons tous une partie humaine. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais nous sommes pécheurs. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Donc nous sommes pécheurs, et cette notion de pécheur, cette notion d'humanité, Jésus l'a portée avec nous. Donc nous devons l'accepter. Sinon, nous sommes comme les Grecs en disant « nous sommes que spirituels ». Le pasteur, d'ailleurs, que je connais très bien, m'a dit, tu sais, André, les pasteurs sont des hommes spirituels. Je dis, ah bon, c'est que tu as vu ça? Alors, il m'a montré dans Galates, etc. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus du peuple. Vous voyez, comme ils sont spirituels, c'est eux qui peuvent décider, c'est qu'ils peuvent comprendre, etc. Vous voyez, on est dans un système dualiste, hein, ce qui est totalement faux. Le pasteur n'est pas un homme spirituel. C'est un homme qui doit connaître sa parole, qui doit aimer les gens pour être berger, hein, mais il n'est pas dit que c'est une élite au-dessus des autres. Or, c'est à ça qu'on arrive quand on est dualiste, quand on n'a pas la bonne compréhension de l'Église. Quand on a la compréhension que je vais vous enseigner sur ces 3 pôles, eh bien, le pôle de la direction ne peut pas être au-dessus des autres. Il en fait partie. Il en fait partie, mais c'est un service rendu. Service au bien commun. Et ce n'est pas un pouvoir. C'est le problème du pouvoir. Voyez. Dès qu'on rentre dans la notion de pouvoir, je peux parce que j'ai une place. Alors quand j'ai une place d'élite, eh bien je peux abuser des gens. Je peux abuser du pouvoir. Je peux abuser. Et c'est le problème des abus. Des abus des pasteurs, des abus des responsables, etc. qui font problème parce qu'on n'est pas sur une compréhension de ce que c'est que l'Église telle que Jésus l'a instituée. Parce que dans le monde occidental, on cherche toujours à résoudre les problèmes par c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Donc ce qui est bien, c'est effectivement le spirituel, forcément. Et on va voir que dans l'Église, il y a un côté spirituel, mais aussi un côté qui est un côté humain, un côté qui comprend notre humanité. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 25... Matthieu 20, 25, on a ce danger que Jésus évoque vis-à-vis de ses disciples, dans Matthieu 20, 25. Voilà ce qu'il leur dit. Jésus appela les disciples et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour nous tous. » Le gros problème, c'est ça. C'est que quand on n'a pas cette compréhension des 3 piliers qui comprennent l'unité dans la diversité. Quand on comprend l'unité comme étant une seule entité, eh bien on tombe justement dans ce problème de pouvoir. Et qu'on le veuille ou non, ce pouvoir va se manifester. Et c'est ce qu'ont vécu cette famille dont je vous parle. Un abus de pouvoir du pasteur qui poussait par des lobbies, il y a toujours des lobbies dans les églises, voilà, poussé par des lobbies, eh bien, les mettait de côté, etc. Et voilà, c'est la catastrophe dans toute la famille. Alors que nous, dans notre église, comme on a vécu cela pendant 12 ans, on n'a pas voulu que ça se reproduise. Et j'ai cherché devant le Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'église? Et là, maintenant, je peux vous l'enseigner. Et on a tout bâti sur ces trois éléments. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous êtes dans une église ou qui interpelle. D'ailleurs, le logo de l'église représente ces trois éléments. Vous voyez le logo qui est dit que l'église, la communauté qui interpelle. Elle interpelle simplement parce qu'elle ramène au fondement de ce que c'est que l'église. L'église est triune. Elle est trois, une. Exactement comme la Trinité. Et ce passage que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, le rappelle de manière magistrale. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le premier témoignage, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, donc le Logos, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois sont un, bah, c'est la Trinité. On dit qu'effectivement la Trinité n'est pas biblique parce qu'elle a été créée par un concile, le concile de Nicée, où les pères de l'Église ont cherché à décrire la Trinité. Mais en fait, là, c'est pratiquement la présentation de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont un, qui sont trois. Trois personnes, je préfère plutôt trois fondements de l'unité. Le fait de le présenter comme ça montre bien qu'il y a une unité ici au centre et trois cercles qui sont, donc ils ne sont pas dissociés, ils sont distingués, mais ils sont un. Donc le témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est un Dieu qui est unique, c'est le Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, c'est la base. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de Yahvé, qui est Dieu, et Elohim, qui sont plusieurs. Donc déjà, Yahvé, Elohim montre qu'il y a une trinité. Et le deuxième témoignage, c'est celui sur la terre. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, c'est l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont un. Alors c'est quoi l'esprit, l'eau et le sang? L'esprit, je pense qu'il n'y a pas besoin de le décrire. C'est la partie supérieure ici, qui... dans l'être humain, représente notre esprit. Notre esprit qui s'ouvre à l'esprit de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, notre esprit s'ouvre et permet une relation avec Dieu. Donc, sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui se saisit de notre esprit, que ce soit nous en tant qu'individus ou ce soit nous en tant que communauté, donc Église. Donc le Saint-Esprit est là, et Jésus, qui était un être humain, enfin qui est devenu un être humain, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous savez qu'au moment du baptême, quand il a commencé son ministère, eh bien le Saint-Esprit est descendu sur lui, il y a eu le témoignage du Père et de l'Esprit qui l'ont baptisé dans l'Esprit, et avec la puissance de l'Esprit, il a affronté Satan qui n'a pas pu le détourner de sa mission. Donc l'esprit, il est là. C'est le témoignage de l'esprit. Ensuite, l'eau et le sang. Où est-ce qu'il se trouve, l'eau et le sang? Bien, il suffit de réfléchir. Quand les Romains ont percé le côté de Jésus, il y a de l'eau qui est sortie. De l'eau qui est sortie. L'eau montre que Jésus était vraiment un homme. Parce qu'un homme... Je ne sais pas combien on a d'eau dans notre corps, mais c'est très important, c'est de l'ordre de 80-90%. L'eau montre que Jésus n'était pas un pur esprit, comme certains le disent. Par exemple, l'islam ou le gnosticisme dit que Jésus était un esprit. Donc en fait, quand il a été crucifié, il n'était plus là. C'était, voilà. Non, non, Jésus était réellement un homme. Et c'est ce qu'on lit à chaque sainte scène. Jésus est venu en tant qu'homme pour supporter la croix. Donc l'eau, c'est la partie du corps. Si vous voulez, si l'être humain, c'est esprit, âme et corps, c'est la partie du corps qui rend témoignage. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On pourrait partir justement sur tous les détails de la croix et retrouver effectivement que chaque détail a sa signification. Le sang. Nous savons bibliquement que l'âme est dans le sang, que la vie est dans le sang. Quand on perd le sang, tout s'arrête. Hein. Et le sang est effectivement ce qui permet la vie. Et la vie, c'est ce qui dirige l'être humain. L'âme, c'est la direction que nous pouvons avoir sur notre corps. Le corps sans âme est mort, il est inanimé. Il a besoin d'une âme, il a besoin du sang qui circule et qui donne la vie. Or Jésus, il avait cette âme et il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il a repris la vie par le Saint-Esprit, il nous la donne maintenant. Et donc le sang, c'est le témoignage de la vie de Jésus. Jésus avait une vie comme nous, une volonté. Hein, dans l'âme, nous avons la volonté. Jésus a la volonté de faire la décision du Père, de la volonté du Père. Il y a nos émotions. Jésus était ému aussi, de compassion, il a même pleuré devant le tombeau de Lazare, et donc la volonté, l'intelligence, la raison. Hein, Jésus, il expliquait avec intelligence les paraboles, etc. Donc cette âme, si vous voulez, qui est dans le sang, eh bien, est la troisième composante. Donc ces trois éléments qui composent aussi bien Jésus, qui est devenu homme, que nous, eh bien, parlent de l'Église. Alors, l'Église, si vous voulez, j'ai vu qu'il y avait cinq approches de cet élément trinitaire de l'Église. La première, c'est l'institution de Christ. Quand Christ a réuni ses disciples à Césarée de Philippe, il leur a dit qui dites-vous que je suis, et c'est là que Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Pierre, tu es Pétros. Alors Pétros, on le retrouve ici, dans ce cercle-là. Pétros, c'est l'apôtre, qui est le représentant des apôtres. Quand il parlait de Pétros, il parlait de celui qui représente les douze. Parce que pour Jésus, il a enseigné les douze. Il n'a pas enseigné que Pierre. Pierre, effectivement, c'était la figure proéminente, mais il y avait les douze apôtres. Les douze, ça veut dire, le chiffre 12, c'est la complétude, la totalité. La totalité d'Israël, la totalité des nations, c'est le 12. Donc, l'ensemble des 12, c'était un collège, donc le Pétros, tu es Pétros, et sur cette Pétra, la Pétra qui est là, c'est un autre mot, Pierre a eu un surnom de la part de Jésus, qui est caillou, qui est un roc, alors qu'il s'appelait Simon. Hein, Simon, fils de Jonas. Et en général, Dieu change les noms pour donner une signification prophétique. Donc Pétros, tu es un caillou, tu vas être un roc sur lequel l'Église naissante va s'appuyer avec les douze apôtres. Mais sur cette Pétra, c'est-à-dire sur ce que tu viens de déclarer, sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant et qui est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie souffrant et glorieux, ces deux choses-là eh bien, fondent l'Église. C'est-à-dire c'est Jésus qui est le chef de l'Église, on le retrouve dans la partie supérieure. Et tu es Pétros, c'est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mon Ecclésia. Et l'Ecclésia, elle est là. L'Ecclésia, elle est là, et en même temps, l'Église est une et indivisible, et elle est trois. Si on prend l'individu que nous sommes aussi en trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc on retrouve que nous sommes un être entier. On ne peut pas nous découper en morceaux, on ne peut pas savoir où est l'âme, où est le corps, mais nous pouvons distinguer cela et l'ensemble des trois fait que nous ne pouvons pas les séparer. Et justement, dans les philosophies, qu'elles soient orientales, etc., on sépare l'âme de l'esprit ou le corps de l'âme, etc. On est dualiste et c'est là qu'on retrouve en fait cette séparation où d'ailleurs, comme dans l'Église catholique, il y a les pneumatiques, ceux qui sont de l'esprit, et les psychiques, ceux qui voilà, sont dans la chair. Et d'ailleurs, eux, ils doivent passer par le purgatoire, tandis que les pneumatiques vont directement au ciel. Vous voyez, on retrouve dans l'Église catholique les mêmes compréhensions philosophiques que dans le monde. C'est en fait le paganisme qui est rentré dans l'Église. Alors que nous sommes aussi bien pneumatiques que psychiques que iliques. Iliques, c'est ceux qui sont damnés. Alors, ils sont damnés, voilà, ils vivent que pour le corps, quoi. Et en fait, nous, on est les trois, mais nous sommes rachetés. Donc, l'Église, il faut la comprendre comme étant trois en une seule partie. La communauté, le témoignage, on l'a vu sur la terre dans ce passage de Jean, c'est le sang, l'esprit et l'eau. Donc c'est Jésus qui le représente, c'est l'esprit, le sang et l'eau du Fils de l'homme. Et finalement, l'Église, donc la communauté qui est triune, eh bien nous avons nous désigné la congrégation. C'est une assemblée des personnes qui sont nées de nouveau, qui au travers du baptême et de leur témoignage de foi, eh bien, font partie de l'Église universelle. Même si nous sommes ici rassemblés en local, nous faisons partie de l'Église universelle. Il n'y a qu'une seule Église, c'est l'épouse, le corps spirituel de Jésus, et nous sommes là-dedans. Et on ne peut pas le confondre avec l'Église locale. L'Église locale qui est ici, qui représente le PEA, eh bien, c'est une communauté où il y a des frères et des sœurs, des frères et des sœurs en Christ. Et là, nous sommes imparfaits. Dans la congrégation, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Parce que c'est en Christ, c'est par la grâce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et là, nous sommes parfaits. Donc, vous voyez, vous avez une réalité que vous ne pouvez pas mélanger, qu'il faut bien séparer, enfin qu'il faut distinguer sans les séparer, c'est que nous sommes pécheurs, frères et sœurs, voilà, et c'est pour ça qu'il y a le pardon. Jésus a dit il faut pardonner 77 fois 7 fois, parce que dans cette communauté locale, forcément, il y a des imperfections, ne serait-ce que si on entre dans une église, on la rend imparfaite par notre présence, et nous sommes tous imparfaits, mais néanmoins, nous sommes aimés de Dieu dans cette imperfection parce qu'un jour, les choses vont changer. Donc là, nous sommes dans la congrégation, nous sommes dans l'association. Je préfère aux États-Unis où le terme est corporation. Corporation, ça veut dire se former en corps. Nous formons un corps de frères et sœurs. Mais en France, c'est interdit depuis la Révolution parce que l'État a peur que les corporations, à l'époque, défiaient l'État et avaient des lois qui leur sont propres. Et donc l'association le remplace. Mais c'est pareil, c'est s'associer, s'associer, nous sommes associés, engagés ensemble pour une même destinée. Et ensuite, ce troisième élément, c'est l'État. Alors ça peut vous choquer un petit peu, mais dans notre Constitution, pour ceux qui deviennent membres, ils sont supposés connaître la composition de l'Église, nous avons créé un État. Alors, c'est quoi l'État ? Alors, peut-être ça fait longtemps qu'on n'est plus à l'école et qu'on ne se rappelle plus de l'État. Mais l'État, c'est, d'après la définition du dictionnaire, c'est un ensemble de personnes, c'est une communauté, vivant sur un endroit donné, un territoire déterminé, soumis à un gouvernement donné. Voyez-vous, c'est une communauté soumise à un gouvernement. Parce que là, c'est le gouvernement. Quand Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, ben, il lui donne les clés. J'ai pas cité la suite, Jésus donne les clés. Et les clés du royaume, c'est quoi ? Ben, c'est la communion ou l'excommunication. c'est communier ou excommunier. C'est-à-dire de permettre à un frère d'être dans l'Église, de ne pas l'y être. On l'a d'ailleurs dans Matthieu 24, qui est clairement expliqué. Lorsque un frère a péché, etc., tu le reprends, etc., il y a toute une procédure pour l'excommunier. Dans le rôle de l'Église, il y a la notion de gouvernement avec une responsabilité de ne pas laisser les frères et sœurs dans la communion s'ils ne respectent pas les règles de l'Église ou les principes établis dans l'Église. Donc il y a la deuxième définition qui est un peu la même, c'est un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre sous certaines conditions. Voyez-vous, on n'est pas dans une anarchie où il n'y a pas d'ordre, on n'est pas dans une autocratie où il y a quelqu'un qui prend l'autorité, et c'est ce qui se passe quand on est dualiste, comme je vous le parlais, de ces églises qui ont des abus, parce que le pouvoir, on n'a pas exercé un pouvoir, on a exercé une autorité. Il y a une grande différence entre autorité et pouvoir. Mais quand on n'a pas ce modèle qui est basé sur les trois, tout naturellement, il se crée une pyramide où on exerce un pouvoir avec, bien sûr, les abus qui vont avec. C'est en fait une unité politique du peuple. Cet élément, c'est l'unité politique. Et politique, en grec, c'est la même chose que république en latin, c'est-à-dire le bien commun. Le bien commun. Dieu donne un bien commun. Alors, le bien commun de l'Église, on va le voir plus tard, hein. C'est déjà le fait qu'on puisse bénéficier la grâce de Dieu ensemble, et le vivre ensemble, d'être souverain, c'est-à-dire de ne pas laisser entrer le monde dans l'Église. Donc voilà, le gouvernement a cette responsabilité d'empêcher que le monde et l'esprit du monde rentrent dans l'Église. Le bien commun, c'est de pouvoir ensemble jouir de la grâce de Dieu, des bienfaits de l'âge à venir, hein, de cet âge à venir, de la guérison, de la résurrection, de toutes ces grâces que nous vivrons un jour avec lui. Nous le vivons aujourd'hui en partie, mais nous pouvons le vivre ensemble. C'est le bien commun. Et moi, j'étais frappé que, bien sûr, il y a des serviteurs de Dieu, heureusement, en grand nombre, qui sont des serviteurs réellement, mais il y a aussi beaucoup d'abus dans les églises. Parce que cette organisation n'est pas clarifiée, n'est pas claire, qui n'est pas séparée. Il faut que les responsables et dirigeants ne puissent pas exercer de pouvoir, voyez-vous, de pouvoir abusif. Ils peuvent exercer l'autorité, ils doivent exercer l'autorité, mais pas le pouvoir abusif. Et ça, c'est l'organisation, c'est le régime du gouvernement qui permet ça. Nous, on a essayé d'aller le plus loin possible en séparant les pouvoirs, hein, exécutifs, législatifs, etc., qui donnent cette organisation pour éviter qu'un pasteur, moi ou celui qui va me suivre, puisse exercer un pouvoir d'autorité abusive, donc de pouvoir abusif sur l'Église. C'est l'Église dans son ensemble qui doit décider de sa destinée. Et c'est pour ça que je suis très heureux que le Seigneur a permis à David de venir pour proposer cela. Que l'Église se réapproprie la vision. Que l'Église se réapproprie le bien commun. Parce que je vois que malgré tous les efforts que je fais depuis 20 ans, je n'y arrive pas. Les assemblées générales sont assez désertées. Bon, là, maintenant, on a fait une proposition pour reproposer de nouveaux membres et je vous invite à donner vos formulaires à Laurence si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est vous qui êtes l'autorité dans l'Église. C'est vous, dans cette partie-là, voyez-vous, ici, les frères et sœurs, vous avez l'autorité de décider du gouvernement que vous voulez. Et c'est dans cette optique-là, parce que vous savez que Christ, c'est lui qui règne, c'est lui le chef. Ici, c'est la christocratie. Ici, c'est la démocratie. Et ici, c'est la doulocratie. Doulos, ça veut dire serviteur. C'est serviteur du bien commun. Il doit être serviteur. Moi, j'étais étonné que dans le monde, je vois des vrais serviteurs. J'avais pour chef de mon entreprise Louis Gallois, qui ensuite après est devenu chef de la SNCF et qui est revenu, c'est un vrai serviteur. C'est un vrai serviteur. Et on lui a proposé des émoluments absolument gigantesques hein, en termes de salaire. Il les a refusés. Il a dit c'est indécent. Bon, il avait tous les autres collaborateurs sur son dos. Il a dit non, tout ça, ça va partir aux ONG et je prends juste ce qu'il me faut. Et en été, ben, c'est lui qui repeint sa maison, qui refait le crépi de sa maison. Vous voyez. Julie, qui connaît bien puisque c'est un ami à son mari, eh ben, quand il invite à Noël, c'est lui qui fait la cuisine pour ses invités. Il est vraiment serviteur. Vous voyez. Donc même dans le monde, on peut avoir des serviteurs. Et dans l'Église, souvent, le serviteur eh bien, devient un abuseur. Et c'est ça le problème. Et ce n'est pas forcément sa faute. C'est la faute de le manque de conception de l'Église. Comment est-ce que l'Église doit fonctionner? Quelle est sa structure, son organisation? Et comment éviter? Éviter, parce qu'il y a toujours un piège. C'est vrai que le Seigneur a permis que... Moi, j'ai moins de pièges que les pasteurs en général parce que j'avais mon salaire. Je ne dépendais pas du salaire de l'Église. Donc, déjà, c'est une aide, si vous voulez. J'attendais absolument aucun centime de l'Église. Donc là, ça m'aide, mais je ne veux pas dire pour autant que tous les pasteurs doivent vivre comme ça. Mais la deuxième chose, c'est la structure de l'Église. Structure de l'Église, les décisions sont prises en collégialité, on a un comité de direction, les décisions sont prises en proposant et en au conseil et ensuite à l'Assemblée générale, de confirmer, bien sûr il faut une direction, hein. La direction c'est pas la décision, c'est donner les axes, les dirigeants doivent diriger, doivent dire voilà, là ce que le Seigneur nous montre c'est ça, ils ont d'une part ce rôle, cette responsabilité, mais diriger c'est pas décider. Donc, c'est cette compréhension de l'Église que je vais essayer de vous faire passer, puis de vous motiver aussi à vous engager. Parce que vous pouvez très bien être dans l'Église sans engagement, c'est pas un problème. Mais on ne pourra pas vous donner de responsabilité, forcément, parce que dans une responsabilité, on va essayer de modifier à sa manière de voir. Or, ce qu'il faut, c'est bien sûr une manière complète et la même pour chacun dans une église, une même vision de l'organisation qui permet d'avancer. Voilà, voilà un petit peu une ouverture sur ce qu'on va voir sur ces trois pôles qui sont l'église et ensuite après on fera la synthèse de cette église qui fonctionne selon les règles du Nouveau Testament et selon le modèle de la Trinité, comme nous l'avons vu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, sang, eau et esprit. Seigneur, nous te prions afin que ces enseignements sur l'Église puissent nous aider à Seigneur, continuer, mais aussi redémarrer une nouvelle dynamique, Seigneur, dans ces années qui sont devant nous, afin que cette Église puisse tenir sur des bases que toi tu as établies, Seigneur, et non pas sur des bases, Seigneur, philosophiques ou des bases humaines. Mais Seigneur, que cette Église puisse tenir contre vents et marées, contre les attaques de l'ennemi qui veut pousser à l'abus de pouvoir pour les dirigeants en particulier, mais aussi, Seigneur, à la passivité des gens qui encouragent cet abus. Seigneur, nous te prions, afin que qui est le sien, de pouvoir être un phare, de pouvoir éclairer, Seigneur, cette humanité déchue dans laquelle nous sommes, dans laquelle tu nous as placés, pour que nous puissions être à ta gloire. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.